Benoît
Dutrisac. À un moment donné, qui gère le système?
Mario Dumont.
Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions...
La rencontre.
Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence.
Excuse-moi, je t'arrête là.
Non, pas toi, là.
Ça ne les regarde pas.
Mais je comprends sa crainte.
C'est pour les imbéciles.
La rencontre Dutrisac Dumont.
Mario Benoît, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Hello.
Alors Benoît, commençons avec cette tuerie à Buffalo. On a vu un homme lourdement armé qui a écrit un manifeste anti-noir. Là, non, un homme raciste là, motivé par une haine raciale. Ouvrir le feu dans une épicerie, 10 personnes sont mortes.
En date du 16 mai, 201 mass shooting, fusillade. Là. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes et plus qui sont impliquées. 201 depuis le début de l'année aux États-Unis.
Il y en a eu 2 en fin de semaine, une en Californie aussi.
Là. En Californie aussi, là, une personne morte, 4 blessés. Puis c'est hier, je regardais Fox News là, pour voir la réaction. Puis évidemment, c'est pas les guns, c'est des problèmes de santé mentale, c'est les programmes, le type là, de 18 ans, Anthony, comment il s'appelle? Peyton Gendron, imagine. 18 ans, qui s'en va tuer des gens parce qu'ils sont noirs. C'est, tu sais, quand on traite quelqu'un de raciste, là, c'est lourd, ce terme-là, et ça nous amène, c'est associé à ce genre d'horreur où les gens, parce que, pour toutes sortes de raisons, là, ils tuent d'autres personnes, et ce kid-là, qui avait 17 ans l'an passé, avait été arrêté parce qu'il voulait faire une autre tuerie dans une école, puis on l'a relâché un jour et demi plus tard. Puis là, il peut, malgré tout ça, s'acheter des armes à feu, puis aller tirer, juste parce que les personnes étaient noires. Moi, ça, encore une fois, tu sais, il n'y a rien à dire devant ça, ça dépasse entendement.
Mario. Parce que tout est terrible. Là, ouais. Tu prends l'histoire bout par bout, là, tu peux pas croire. Tu peux pas croire qu'il est allé s'acheter une arme. Moi, t'as insisté, Benoît, sur l'âge, là. T'as certainement raison de dire qu'il avait 17 ans l'année passée. C'est un kid, là. Je veux dire, c'est un kid, là. C'est que, je dis ça pour dire que ça excuse pas la gravité de son geste. Il va être jugé comme un majeur. C'est juste que ses opinions, mettons qu'il est raciste là, à ce point-là, mais ses opinions à cet âge-là, il n'a pas écrit plusieurs livres de réflexion là, tu sais, sur les races. Là. Ses opinions, ça s'appelle à cet âge-là, c'est que tu t'es fait monter à la tête. Là. Pour une large partie, tu es embarqué sur des sites internet ou des affaires. Là. Surtout que lui, semble-t-il qu'il n'y avait aucune vie sociale. Il voulait rester en enseignement à distance, il voulait rester connecté à son ordinateur. Puis qu'on imagine facilement le nombre d'heures qu'il a passé sur des sites de merde qui encourageaient les pensées les plus obscures. Fait que tu sais, c'est tout ça, là, tout l'engrenage des merdes découvertes sur Internet qui l'a amené dans une folie.
L'accès facile à des armes à feu.
L'accès facile, tu dis? Ben, l'accès à des armes à feu à 18 ans, quand t'as 17, t'es en psychiatrie. Pour motivation violente.
Le type qui vend l'arme d'assaut là, c'est pas une arme là pour tirer de la perdrix. Tu sais, encore AR-15, puis un gilet par balle. Puis y a personne qui va dire attends une minute minou là, on va t'envoyer la police.
De ça, 18 ans là.
Ben oui, tu vas faire quoi avec ça? Mais non, il y a aucune question, puis il part avec. Puis il l'a modifié, puis il a tué une dizaine de personnes. C'est complètement aberrant.
Ouais. Mais l'autre bout est aussi fou, parce que il a tué une dizaine de personnes. Je sais plus quel média a fait, c'est un média de base, qui a fait le portrait de chacune. C'est tellement triste, le portrait de chacune des personnes. Il y avait une espèce de pasteur, un religieux, qui sortait de la cuisine communautaire. Il y a des gens qui avaient besoin d'un lift. Fait que lui, il s'est fait tuer en train de mettre des sacs, il était dans le stationnement, de mettre des sacs dans la valise, pour aller de gens qui avaient pas de véhicule pour aller les reconduire chez eux avec leurs emplettes. Un autre allait chercher le gâteau, c'était un oncle qui allait à l'anniversaire de son neveu, sa nièce, je sais plus. Puis il est arrêté chercher le gâteau à l'épicerie. Tout du bon monde là, qui faisait rien.
Puis il a fait du repérage.
Surréaliste, là.
Il est allé sur place pour faire du repérage, pour être sûr. Tu sais, c'était planifié. Et là, il s'est craqué. Il a écrit un truc sur son arme, que je répéterai pas ici, qui est évidemment raciste aussi. Tu dis, comment tu peux devenir craqué? Et je reviens là-dessus, je vais toujours revenir là-dessus, parce qu'on demande à personne de faire des enfants, mais où sont les parents de ce gars-là? Où sont les parents de ce gars-là qui devait être enfermé, obsédé, à lire de la merde sur Internet, des théories de complot, de la haine pure, puis jamais au souper, vous dire, puis, comment il s'appelle? c'est quoi son nom, là? Peyton. Comment t'as passé ta journée? Qu'est-ce que tu fais de bon? Qu'est-ce que tu fais sur ton ordi, tu sais? Il avait 17 ans, là. Il avait 18 ans. Excusez-moi, là, mais les parents ont une responsabilité des enfants qu'ils laissent dans la société. Puis à un moment donné, si tu vois ton enfant, ton ado, qui est toujours enfermé, qui est toujours sur des sites comme ça, va voir c'est quoi. Ouvre une discussion avec ce gars-là ou cette fille-là. Plus souvent des gars que des filles. Puis tu veux savoir ce qu'il y a en tête. Mais c'est la responsabilité des parents. On vous demande, on nous demande aucunement à personne de faire des enfants. Si vous en faites, soyez donc responsables.
Savez-vous ce qui est le pire? J'ai vu ça, j'étais dans le bas du fleuve, j'étais chez mes parents en fin de semaine, je vois la nouvelle, je vais aller voir sur CNN le descriptif. Puis tu sais, sur ton sel, il y a à peu près une dizaine de nouvelles qui sortent, là. Elles étaient pas dans les 10 premières. Ça a remonté plus tard quand on s'est rendu compte que c'était un crime raciste puis tout ça, mais je me dis, ah, ben, c'est juste une fusillade dans une épicerie aux États-Unis. Là, comme tu disais, Benoît, on est à peu près à la 100e journée de l'année, puis il y en a eu 200 avec deux par jour. Tu peux pas toujours mettre ça dans les premières nouvelles. Tu dis, OK, une fusillade dans une épicerie, mais c'est pas instantanément dans le top des nouvelles. Là.
On s'est comme habitué, là. Est-ce qu'il y a des fusillades? Est-ce que des gens aient accès à des armes d'assaut? Puis est-ce qu'on se tire? C'est quand même hallucinant, là.
De se faire tirer en faisant son épicerie. T'as-tu pensé comment c'est hallucinant?
Oui. Ou en allant prier, ou n'importe quoi. Ça n'a juste plus d'allure, ça. C'est de prendre un gun puis de descendre quelque part. Le site, le Gun Violence, les archives 2022, ils sont rendus, le Gun Violence, 16 058 personnes qui sont mortes. T'es rendu au mois de mai. Puis là-dessus, il y en a plus que la moitié, presque 9 000, c'est par suicide. Avez-vous entendu parler d'une vague de suicides aux États-Unis par arme à feu? Moi, non. On surveille les médias un petit peu, là. Il y a plus rien que d'important. Il y a plus rien de grave. Tellement que le lobby a été puissant à rentrer ça comme quoi c'est un choix de liberté d'avoir une arme à feu puis d'avoir accès à une arme à feu quand
d'avoir
on veut,
le droit de la porter aussi en public, ce qui est un gros enjeu. Je vous entendre sur Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait une proposition audacieuse, on va dire ça comme ça.
Oui, je pense que t'es généreux.
De mettre le gaz à 1,60 $ maximum puis de retrancher un 50 sous le litre dans les profits des pétrolières, là, ben Mario.
Ben écoute, j'ai jamais vu une proposition, sincèrement, dans tout respect, j'ai rarement vu une proposition aussi loufoque. Je veux dire, pas de problème, les pétrolières, ils vendront juste plus de gaz au Québec, là. Je sais pas en vertu de quoi tu vas décider, toi. Tu sais, c'est la fixation d'un prix, limite avec la régie de l'énergie. Mais même la régie de l'énergie, quand le gaz est monté à en haut de 2 $, je pense que la régie de l'énergie disait que le prix, à ce moment-là, le prix normal aurait été 2 et 3. Donc, les pétrolières s'étaient retenues, ils avaient eu peur, ils ont resté à 1,99 quelques jours parce qu'ils ont eu peur du seuil psychologique. Mais bon, c'est un prix du baril mondial, c'est un prix international. Fait que si tu dis dans une juridiction, dans une petite province, nous on n'est plus prêt à payer ce prix-là, pas de problème, passe-toi-en, on va le vendre ailleurs. Mais je veux dire, je sais pas d'où ça sort. Puis le plus loufoque, là, je sais que là-dessus, je suis minoritaire, mais juste vous rappeler que le PQ, je pense, était un des premiers partis, sinon le premier parti, quand la Caisse de dépôt passait à la commission parlementaire, à exiger là, de ne plus avoir d'action dans le pétrole puis tout ça. Mais il m'excuse, là, soyez sérieux, là, le prix du pétrole, vous le contrôlez pas. La seule chose que vous contrôlez, c'est que au moins, comme dans nos fonds de pension, que la Caisse de dépôt se reprenne en ramassant des dividendes sur les profits des pétrolières, puis sur les gains boursiers des pétrolières, puis la caisse de dépôt a cette liberté-là. Puis là, c'est le PQ qui a suggéré qu'on n'en profite pas, qu'au moins qu'on n'en profite pas de l'autre bout. Fait que ça, c'est sérieusement...
Non, ça, j'ai de la misère avec ça, Mario, tu sais, d'investir dans un système qui nous arnaque nous-mêmes. Tu sais, c'est comme on va féliciter
non,
les crosseurs.
Il nous vend un produit.
Il nous arnaque. Parce que, tu sais quoi, moi, ce que je comprends pas, vous allez me l'expliquer, vous êtes plus intelligent que moi, là.
Mario, moi, c'est... non.
Mario surtout, toi, Vincent, j'ai encore des doutes.
C'est un coup quand faut expliquer le prix de l'essence, c'est
moi j'allais m'en faire un café.
C'est
là.
Moi qui rendu intelligent.
Non, mais je peux l'expliquer, mais je peux pas expliquer.
Celle-là.
Ouais, je peux pas expliquer pourquoi ils s'en mettent autant plein les poches avec la hausse.
Quand le baril est à 20$, 30$ du baril, là, ils ont mangé leur bol. Les compagnies pétrolières ont perdu des milliards, là.
Attendez, les compagnies pétrolières, là, Carole Montreuil à leur tête, dit ben il y a la taxe, l'augmentation des taxes, la taxe carbone, la guerre en Ukraine.
C'est pas ça, là. c'est pas ça.
Ben non, mais si c'est ça, comment ça se fait qu'ils ont pas, sans parler de pertes, là, plafonné les revenus? Parce que si c'est plus difficile. Mais là, c'est des explosions. Suncor, 3 milliards en un trimestre. Imperial Oil, c'est 1,1 milliard de profit.
Écoute, je vais t'expliquer.
La liste,
je vais t'expliquer un bout, là. D'abord, ces compagnies-là ont mangé leur bois, ont perdu de l'argent comme pas possible pendant la pandémie, là. C'est pas vrai qu'ils faisaient de l'argent pareil quand...
Ils ont perdu un peu d'argent. Non,
les revenus, les milliards. Mais non, mais ce que j'allais dire, c'est que Suncor, mettons, là où ils font leur argent, c'est avec la production, là. C'est-à-dire, à 100, quand ils vendent des barils, sur le détail, là, peut-être qu'ils en font quelques cents de plus, mais je veux dire que ils font du profit sur chaque vente, chaque station. Bon, le raffinage, mais la marge de raffinage est relativement semblable. Que l'essence soit à 99 cents comme elle est descendue, là, au plus bas dans la pandémie, ou au plus haut, la marge de raffinage puis la marge de détail.
Non,
là,
mais c'est des profits records, les.
Mais c'est des profits au baril, c'est des profits pour la production, là. Mais je veux dire, la production, là, on va faire le profit qu'on le vende en Europe, qu'on l'exporte, qu'on le vende aux Américains, le baril de pétrole est à 110$. C'est sûr que c'est mieux qu'à 20.
Les 28 pétrolières ont fait 93 milliards de profits au dernier trimestre. Si c'est si difficile, si la guerre en Ukraine est si pénible, comment se fait-il qu'ils fassent autant d'argent?
Ben, parce qu'ils produisent quelque chose qui coûte plus cher.
C'est ça.
Sur le marché mondial. Mais eux, ça coûte le même prix produire le même baril de pétrole. Fait que maintenant, ça coûte 40$ tout le temps.
Ils nous fourrent au passage.
Mais c'est ça le fait de participer au marché mondial. C'est comme la gestion de l'offre.
Puis si tu sais ça, si tu vois ça venir, ben t'achètes des actions de Suncor. Comme la caisse aurait dû s'en... Mais là, on leur dit, ben nous, au nom des raisons éthiques, on dépense plein de gaz.
Ben on fait
la station-service, mais on veut pas être propriétaire des compagnies. On veut pas se reprendre en étant actionnaire. Ben là, arrêtons de chialer.
On va investir dans les Hells d'abord. On va investir dans tous les crosseurs. Tu sais, ben non, mais...
C'est pour ça qu'on a légalisé le cannabis.
Moi, j'achète rien. Non, Benoît, moi, j'achète pas ni la prostitution, ni la drogue des Hells, là. Mais j'achète du pétrole. J'ai pas l'impression d'être un... Faut que je fasse le plein, j'ai pas l'impression d'être un criminel. Si criminel, fermez vos stations-service, là. Tant que les stations-service sont ouvertes, c'est un produit légal.
Les droits humains ne t'intéressent pas en Arabie Saoudite, parfait. Mais les travailleurs étrangers en Arabie Saoudite sont traités comme des animaux domestiques. Ils n'ont aucun droit. Là. Ils
se blessent, plus là, ils sont tournés. Du pétrole canadien. Achetons plus d'actions de Suncor.
Mais là, Aramco, là, quand tu dis on va baisser le prix, Aramco a augmenté ses revenus de 82%. Pensez-vous que le prince Mohamed bin Salman, qui vaut 18 milliards lui seul, qui a permis de dépecer le journaliste Khashoggi, pensez-vous que lui, il pense au gaz à effet de serre? Pensez-vous que lui, ça le trouble?
Pas tellement.
Merci, Jean-François.
On a eu la réponse.
C'est comme... Mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec les programmes demandés par les camionneurs puis tous ceux qui gagnent leur vie avec la livraison, qui gagnent une vie ordinaire, avec un salaire ordinaire, et que ces salopes de pétrolières font des profits records?
Est-ce que tu dis ça en appui à l'idée de fixer le prix de l'essence à 1,60?
Ben, pas au Québec. Le Québec, on n'est rien. Là. On n'est rien. Mais t'as tous les pays. En Colombie-Britannique, là, aujourd'hui, l'essence, le litre est à 2,22 $. Fait qu'on n'est même pas les pires.
Il est moins cher que chez nous parce qu'ils ont moins de taxes, mais proportionnellement, les Américains sont
plus
chers.
Il est plus cher en Colombie-Britannique.
Oui, mais aux États-Unis,
il y a moins de taxes, il est moins cher, mais en proportion, il a monté autant, là. C'est mondial. C'est pas qu'on est victime d'un arnaque au Québec spécial. Le prix du baril d'essence a monté mondialement. Puis le diesel a monté parce que en Europe, pour produire leur électricité, ils ont besoin de diesel.
Mais c'est les pétrolières qui déterminent l'inflation. C'est les pétrolières là, qui font des profits records. Moi, je te dis pas, là, si ils ont de la misère, puis mon Dieu,
les profits, là, c'est le résultat de leur vente. Là, le baril de pétrole, les pétrolières, ils contrôlent pas le prix du baril. Là. Quand le prix du baril baissait à 20$, ils mangeaient leur bois, ils perdaient de l'argent.
Au début de la pandémie, ils en ont perdu de l'argent.
Face à 2021, là, les profits, là, 2021, ils faisaient des profits encore.
Juste 2020 qu'ils en ont perdu.
Ben, là, bon. C'est, ah non, c'est, mais ça, ça a pas d'allure. La proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon a pas d'allure. Parce que, tu sais, je pense que c'est pas au Québec que ça va se régler. Hein.
Je veux vous entendre un mot sur, Mario, le chef de cabinet de François Legault, qui, dans une enfilade de tweets durant la fin de semaine, était un petit peu tanné des chroniqueurs à la presse.
Ouais, là, j'avoue qu'il m'a jeté à terre. Il faut le prendre pour ce que c'est. C'est quelqu'un qui, Martin Koskinen, là, qui est vraiment l'alter ego de son directeur de cabinet, l'alter ego de François Legault, qui va sur Twitter et essentiellement dit que les chroniqueurs de la presse pensent tout pareil. Il dit, j'adore lire des quotidiens, des magazines, ils dessinent un portrait là, de notre époque, blablabla. J'ai une observation à l'égard de la presse qui m'habite depuis un bon moment. J'ai souvent l'impression que les chroniqueurs et les éditorialistes de la presse sont interchangeables. Ils pourraient tous signer les textes de leurs collègues sans accrochage ou désaccord. Est-ce possible que la presse est atteinte inconsciemment d'une forme de groupthink, là, on va dire d'une pensée de groupe, il le dit en anglais, mais une pensée collective, une pensée de groupe qui aplanit les diversités d'idées. Cela peut arriver dans toutes les organisations, il est toujours utile de soulever ces questions. On va dire, il n'y a pas nécessairement tort, c'est vrai qu'il y a une uniformité de pensée incroyable à la presse. Mais en plus, à la presse, ils sont vindicatifs. Quand il y en a un des là qui est attaqué, toute la meute, justement, là, ils pensent tout pareil, toute la meute se met sur son dos. Je sais pas quel risque qu'il prend, je sais pas qu'est-ce qu'il veut accomplir, qu'est-ce qu'il veut faire. S'il pense qu'à la presse, ils vont se faire un séminaire de réflexion et d'introspection pour dire... ils pensent tout pareil. Là, ils se feront pas une introspection pour se dire « on pense tout pareil ».
Ils sont pas... C'est pas tout le temps, tout pareil. Oh, c'est bon, 80
ans. Une uniformité impressionnante.
Salut Vincent, va voir, je suis allé voir, là, les articles sur la loi 96. L'insolence des anglophones, tu sais, c'est tout le même point de vue, là. C'est
sur le français, c'est... peut-être Patrick Lagacé qui est un petit peu plus défense du français, mais c'est dans les nuances.
Mais en même temps, tu sais, que... les Québécois se fait critiquer pour les mêmes affaires de l'autre bord.
Non, je fais juste... On est dans toutes les directions, on est le média, il y a José Legault, Mario Dumont, puis Thomas Mulcair qui écrivent dans le journal, parce que t'as plus de diversité, là.
Mais moi, je pensais qu'elle allait écrire, Koskinen, qu'il était les chroniqueurs et éditorialistes de la presse étaient interchangeables avec ceux de Radio-Canada. Parce que c'est les, ils sont invités.
Tu peux être poursuivi pour ça.
C'est vrai?
Oui. On a un collègue qui était pas, tu faut pas que tu dises que Radio-Canada et la presse, ça travaille ensemble. Tu peux être poursuivi pour ça. C'est un hasard.
Par qui?
Tu dises que c'est un hasard.
Ah, c'est un hasard. Il n'y a pas de collusion. C'est comme les pétrolières. Il n'y a pas, de collusion. C'est tout pareil. Non, mais, tu sais, un peu woke, un peu fédéraliste, juste assez militant. Fait là, tu vas piger dans le Montreal Gazette, puis le Devoir, puis le Suburban. Puis c'est toujours délicat de critiquer ses collègues, ses confrères, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus, nous, de la critique. Tu sais, tout le monde pense qu'on est sous la gouverne de Pierre-Carl Péladeau, qui a été chef du Parti québécois. Donc, on est tous indépendants. Bandantiste, à tout craint, puis il n'y a pas de réflexion qui se fait. Moi, c'est un combat que j'ai abandonné depuis longtemps. Là. Ça fait longtemps que, tu sais, je lis les nouvelles de la presse, je trouve qu'il y a des bons journalistes à la presse. Il y a des bons journalistes, il y a des journalistes qui font un bon travail, mais les
éditorialistes... Il y a des bons
chroniqueurs aussi, là, mais... Oui, mais souvent, ça va dans le même sens, puis, tu sais, l'insolence des anglophones d'Yves Boisvert, là, est forte en estime. Excuse-moi, là, tu sais, mais avec, tu sais, puis Isabelle Haché va dans le même sens, mais là, tu dis avec, puis l'argument, là, de dire, sur la loi 96, puis j'ai eu Mme Andelade vendredi en entrevue, là, tu dis, qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus que vous avez déjà, j'avais posé la même question à la femme en colère, Marlon Jennings, puis là, c'est parce que, how much is enough?
Messieurs.
C'est à un moment donné, lisez tout, faites-vous une tête par vous-même.
Bonne journée.
Salut. Là.